toutes et à tous, c'est Watchful pour la rentrée des podcasts de DC Planet et vous êtes sur le DC Podcasters Classic numéro 11. On va passer en revue toutes les news et quelques reviews VF, VO et TV. Pour m'accompagner, Blue.
Yes, salut à tous.
Clegane.
Tu peux attendre qu'il ait fini de parler quand même.
Non, il n'a pas le temps de se présenter.
Just a Frog.
Bonjour.
Et Sledgy, grosse équipe.
Salut à tous.
Et donc, pour bien commencer la rentrée, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir les news VO, les news DC, l'événement que tout le monde attend, Years of the Villain. Ça sent pas la merde.
Metal 2 ?
Ça devrait s'appeler Metal 2, et justement, Metal 2, c'était peut-être ça. Years of the Villain, on va épurer un petit peu, parce que justement, là, on a beaucoup de news Years of the Villain. Clegane voulait nous parler de l'opposition Lex et le Batman Kiri, parce que c'est tellement plus drôle en français qu'en VO. Donc cette opposition, elle va reposer sur quoi, mon Clegane ?
Eh ben, j'en ai aucune idée, moi.
Sur un podcast.
Tu crois que je m'intéresse à ça ? Ça s'appelle
la crème de la crème.
Ça s'appelle Hell Horizon, je crois. C'est Edly, toi qui fais la news, tu m'aides ?
Oui. En gros, il y en a un qui domine le monde et l'autre pas, et ça le fait chier. Et du coup, il veut dominer le monde à sa place.
Voilà, c'est ça.
C'est pas tellement plus compliqué.
C'est nul.
Ça fait très dessin animé années 90, tu vois, mais genre le dessin animé qui est là pour vendre des jouets, tu vois. Ça vole pas plus loin que ça.
Les épisodes de Looney Tunes qui sont plus intelligents.
Ouais, c'est clairement ça. C'est clairement ça depuis le début, c'est très très artificiel tout ce qui est Heroes of Villain. Il n'y a pas beaucoup qui s'en sortent vraiment, quoi. T'as juste les one-shots de Mark Russell qui où il y a quelque chose qui en sort, quoi.
Ah, tu spoil les news, toi.
Pardon.
Ça vient d'où, en fait, à la base ? Pourquoi ils ont...
D'une mauvaise idée.
Certes.
Et pourquoi maintenant ? Genre, c'était pas l'année de Batman, maintenant ? C'est son anniversaire.
Ouais, mais ça, c'était au début. Maintenant, c'est Scott Snyder qui a décidé
Que
c'était comme ça. Mais c'est avec la Legion of Doom, quoi.
Avec son Lex Luthor albinos.
Ouais, voilà.
Ouh là là !
En vrai, j'ai regardé la cover du one-shot qui va sortir, là. J'ai tellement pas reconnu Lex Luthor. Il est avec sa capuche devant.
Non, mais il ressemble
blanc.
À un dégueulasse de Voldemort, hein, faut le dire.
Mais oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Il fait un peu lépreux sur les bords, mais c'est parce qu'il a fusionné avec... Bon, je vais pas spoiler.
Vas-y.
Je vais pas spoiler ce qui lui arrive, mais il lui arrive des trucs, quoi.
Est-ce qu'on peut spoiler ? J'ai envie de dire oui, quoi. Ça va sortir en VF dans pas longtemps.
Et on est en comics VO, de toute façon. C'est plus un spoil.
Ouais, bon, bah écoute, il fusionne avec une race extraterrestre, quoi. En gros, je vais pas dire qui. Mais...
Avec Starfire.
Bref,
mais je me demande comment il va redevenir normal avant que Doomsday Clock arrive, c'est-à-dire dans pas très longtemps.
Mais non, mais Doomsday Clock, ça, c'est quelle continuité ?
Enfin, ouais, dans un an et demi, calme-toi, Doomsday Clock.
On a eu les covers, donc ça va arriver.
Oui. C'est bon, c'est terminé, ça arrive en novembre. En fait, c'était en décembre, mais ça arrive.
Ah putain, mais oui, j'avais pas vu la cover avec Lex Luthor. Oh ! On dirait qu'on... Alors, sans déconner, on dirait qu'il sort du nom de la rose. Genre, on dirait un moine.
Ouais.
Un moine. Qui sort, c'est lui.
C'est Sean Connery.
Non, mais pour moi, on dirait le nom de la rose.
Ah bah, je savais pas que DC Comics lançait dans l'adaptation des romans d'Umberto Eco, mais c'est parti pour.
Toujours, hein.
En réaction.
C'est pas Spider,
mais
je dis oui.
Oh la vache, mais j'ai tellement mal. La suite de Years of Villain, parce que justement, pour expliquer toute cette confrontation et cette fine équipe du Batman Kiri, on va avoir une présentation de certains des membres de son armée. Les infectés. Des one-shots d'infectés qui reviennent de plusieurs événements passés de l'univers d'ici, alternatifs, qui proviennent donc du Dark Multiverse.
Ah non, c'est les vrais super-héros de l'univers normal, ça.
Ah d'accord. Ok, c'est encore mieux. C'est vraiment une bonne idée. Ah putain, non, moi je me suis dit, on va encore sauver les meubles là. Non, c'est parti.
Le Jim Gordon. Attends.
Mais, honnêtement, est-ce que des héros contre d'autres héros, c'est pas une super idée originale, ça.
Ah, mais ça serait largement mieux, en fait, tu vois. On trouvait ça con, mais ils ont réussi à faire plus con, c'est bien. Non, mais franchement, le Jim Gordon, tu vois, il sort de son bat-chapi, il fait « Oh, c'est bon, j'arrête les connes, hein, je suis trop vieux pour ça. » Et là, ça y est, Dark Multiverse, je suis infecté et je vais me friter avec un Lex Luthor alien. Mais Scott Snyder, oui.
Alors, je tease un peu la suite, mais j'ai l'impression qu'ils se sont un peu basés sur l'épisode 1 de la saison 2 de Titans. Tout le monde est infecté.
Aïe.
Ah non, c'est juste qu'aucun des deux n'est original.
Ouais.
Ouh là là. Ah non, mais quand même, il faut en parler, les Titans, tous les membres des Teen Titans originaux, ils sont dans le mal. Genre, Dick, bon, c'est devenu Rick. Donna Troy, elle était infectée.
Alcoolique,
ouais. Et infectée. pas la Batman Kerry. Garth, je crois qu'il est mort. Wally, il est en prison. Roy est mort. Bon, voilà.
T'inquiète, il y a encore Aqualad.
Non, je crois qu'il est mort.
Ah,
non,
super.
Il est pas mort. Il est.
J'ai vu qu'il est tombé de l'espace à un moment.
Ils peuvent pas le tuer. Il est devenu gay là dans Young Justice. Tu ne peux pas.
C'est pas le même.
Ah oui, ouais, il y a le Calderam, il est là, lui.
Ouais, mais pour une fois qu'il y a un héros gay, ils vont pas le tuer, tu vois. Ou alors ils vont le rendre gay dans le comics.
C'est pas le même, Calderam.
Ouais, ouais.
Il est déjà dans Aquaman, lui.
Oui, mais justement.
C'est-à-dire littéralement ou pas Aquaman, littéralement, c'est intéressant.
Non, pas littéralement.
Non, parce que dans Aquaman, le dernier numéro, j'ai l'impression qu'il est très mal parti, là, Calderam.
Bah, il est. Enfin, il est normal, quoi. Enfin...
Bah, je sais pas, enfin, je vais pas spoiler le numéro, mais à la fin, ça pue un peu pour ses fesses. On va terminer avec Year of the Villain avec le numéro spécial qui va clore, entre guillemets, événement de l'année. Villain of the Year, un numéro scénarisé par Mark Russell, sans doute le numéro qui a un minimum d'intérêt, et qui va se baser sur une idée, pas forcément originale, mais que je trouve néanmoins sympathique, qui est justement de faire participer le lectorat à voter pour le vilain de l'année. Alors, cette entre guillemets cérémonie est censée être présentée par Harley Quinn, mais est-ce que c'est pas assez risqué parce que justement le vilain le plus, le vilain préféré de l'ensemble du grand public, justement, c'est pas Harley Quinn.
Le vilain le plus gentil.
Vilain le plus gentil, oui.
Je sais pas si c'est elle qui gagnerait, mais c'est forcément une possibilité, quoi. Mais enfin, je veux dire, ça peut être drôle parce que c'est Mark Russell qui le fait, quoi.
Ouais.
Donc c'est vraiment ça qui fait que j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus, que j'ai juste profité du côté interactif et du côté un peu fun, vu qu'ils essayent absolument de faire des trucs subversifs avec Harley, comme Marvel essaye de le faire avec Deadpool, en vain.
Mais je trouve ça, même si là. Pour l'événement en question, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Je me dis que c'est quand même à soutenir parce que l'interaction entre éditeur et lecteur, elle devrait justement être amplifiée. Pas forcément pour des décisions importantes. En fait, si. Parce que par exemple, tu vois, ils nous auraient proposé Year of the Villain, on le fait ou on ne le fait pas? On aurait pu voter et je pense qu'il y aurait une majorité qui aurait voté non. Peut-être pas aux États-Unis par contre, je ne sais pas trop.
Ouais, voilà, les Américains.
Ouais.
Est-ce qu'on peut voter pour que Dick revienne ou meure?
Ah, alors là, ça, c'est un appel du pied qui me fait plaisir, Clegane. pour la news suivante, qui est donc le cas de Tim Drake, et c'est Just the Frog qui voulait nous en parler. Tim Drake, explique-nous.
Oui.
Drake.
Alors, dans les pages de Young Justice, Bendis a cru bon de changer le pseudo de Tim Drake, donc Red Robin. Jusque-là, il n'y a pas de souci, c'est même une plutôt bonne idée, parce qu'il traîne ce pseudo depuis un moment. Mais il a choisi un pseudo qui est très original, qui est simplement Drake. Sauf que il passe d'un oiseau, Robin, qui est un rouge-gorge, à un autre oiseau, qui est un canard, en anglais.
C'est bien les canards, que tu... Tu t'appelles Just the Frog quand même, hein, je veux dire. Tu vois, tu t'appelles Grenouille et on te dit rien.
C'est vrai.
Super héros.
Justement, il y a peut-être des raisons.
Ouais, tu sais pas. La nuit, je me transforme.
Grenouille Man, tu sautes de toi en toi.
Exactement. Mais donc voilà, et sans parler évidemment que c'est un peu son nom de famille. Donc oui. Qui irait chercher quelqu'un sous son identité, sous l'identité de son vrai nom. Personne.
Mais c'est, puis c'est de la grosse flemme quand même, je veux dire, c'est vraiment,
bah oui,
c'est vraiment nul à chier, quoi.
Et en plus, est-ce que vous avez vu son nouveau costume?
Oui, oui, bah déjà, il a pas de cap déjà, c'est mort, c'est sans moi.
Il est marron, quoi, il est dégueulasse.
Il est marron, enfin.
Après, moi, les formes, elles m'ont pas tant dérangé, je le trouve plutôt pas mal, ce costume.
Ouais, il a un bon cul, je suis d'accord.
sur une échelle de Bill Grayson, il est à où?
Oh non, déconnons pas, tu vois, il est à 7, tu vois.
Oh, si, si.
Mais, ouais, Grayson, un cul béni des dieux, tu vois.
Bah lui, c'est le 10 ultime, quoi.
Ouais. Michael Janine nous le montrait souvent, d'ailleurs.
Ah oui.
C'est et là, ça gueule pas. Faire, hein.
Bah, je peux dire que là,
James a tiré du lecteur.
Donc voilà, après Rick, après Drake, on sait pas ce qui nous attend.
Ok, bon, bah oui, justement, le parallèle de Rick et Drake, c'est ce que j'allais dire, justement, tu commences, t'es Robin, t'es content, tu te dis que tu vas prendre la cape de Batman, mais au final, tu finis ou alors amnésique, ou alors révéler ton identité secrète tellement t'es foutu.
Après, il dit qu'il s'appelait Grayson à un moment. Je pense que Bendy, c'est juste copié, en fait.
Ah, pas faux, pas faux, ça, j'avais
ouais,
pas
vu le parallèle. Complètement.
Mais enfin, c'était pas pareil. C'était l'agent Grayson.
Non. C'était pas un super-héros à l'époque.
En plus.
C'était un super espion.
Ensuite, on a l'annonce du mini-série par Grant Morrison qui va raconter Hal Jordan en tant que les aventures d'Hal Jordan en tant que Black Star. Black Star, je ne vais pas vraiment vous raconter ce que c'est si vous n'avez pas encore lu le titre Green Lantern, mais je vous encourage à le lire. Même si.
Parce que je sais qu'il y en a. Donc, je veux bien.
Ouais. Alors déjà ça, et en plus ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent le format relié, alors que je trouve le format épisodique vraiment intéressant, parce que Grant Morrison arrive à jouer là-dessus avec une aventure de 24-30 pages, vraiment concise, une aventure de 24-30 pages, multipliée par 12 fois, tu vois, c'est vraiment un aspect Silver Age.
Et tu vois, moi j'ai le TPB là, et oui. Lire plus d'un numéro à la fois, c'est chaud. Parce que ouais, c'est tellement rempli un numéro que... T'as mal à la tête, quoi, la forme. C'était ceux dans les
rangs. J'ai envie de dire, c'est l'effet Grant Morrison aussi.
Ouais, ouais.
Ouais, bah, c'est vrai que là-dessus, il est très prononcé, quoi.
Mais en plus, ce qui est super intéressant avec cette série, c'est que chaque numéro fait référence à un style particulier du comics.
Il y a une époque différente, ouais.
Ouais.
Un numéro.
Du coup, il y a toute la dimension méta du comics qui est vachement intéressante. En plus de l'histoire qu'il est aussi.
Ouais, et toute une nouvelle création, et c'est tout l'intérêt justement de cette mini-série qui est Green Lantern Black Star, c'est que c'est une sorte d'univers différent, un avenir différent pour Hal Jordan, et c'est quelque chose qui a vraiment été très osé dans le titre Green Lantern, et je sais pas pour ceux qui l'ont lu ici, mais j'en suis ressorti assez frustré que ce soit pas plus développé, et l'annonce d'une série, c'est quand même rassurant de pouvoir explorer un peu plus tout l'univers de Black Star.
T'as dit que c'était en 3 numéros, je sais plus.
Oui.
Comment ?
3 numéros.
Ouais, ah d'accord, non, j'ai pas dit que c'était en 3 numéros, non, j'avais dit que c'était une mini-série, mais j'ai pas dit que c'était en 3.
Donc la saison 2, la reprise avec Liam Sharp revient en janvier.
En janvier.
Ouais.
En janvier, c'est ça. Pour la saison 2, 12 numéros. Je pense qu'on a fait le tour pour Black Star, à moins que quelqu'un veuille vraiment étoffer sur la relation.
Moi, je me demande juste, s'il va, parce que Venditti avant,
ouais,
qui avait ramené les Black Star en fin de la fin de son run, c'était sur les Black Star. Je me demande si Morrison, il va juste dire, tu sais quoi, j'en ai rien à foutre de ce que t'as écrit pendant 2 ans.
Ouais, c'est pour ce qu'il fait depuis le début.
Oui, bah c'est pour ça, tu vois, en fait, mais ça me ferait marrer parce que bon, l'arc de Venditti, c'était pas. C'était pas mémorable, quoi.
Non, non, c'était de la merde. On va arriver sur le... j'ai envie de dire le point Christopher Priest. On va commencer avec l'annulation de Deathstroke au numéro 50. Là, par contre, je vais laisser Sledgy en parler. Parce que Sledgy avait une prémonition.
Le nouveau prophète de DC Planet, ce n'est plus Clegan, c'est moi maintenant. Oui, okay, alors donc... donc avec les sollicitations de décembre, on a effectivement appris que la série Deathstroke, qui est en cours depuis le début du DC Rebirth sous la plume de Christopher Priest, va s'arrêter au numéro 50, évidemment, pour faire anniversaire, tout ça, tout ça. Et il y avait un article écrit en mai où ça va peut-être se finir en décembre parce qu'en janvier, Tom King n'est plus sur Batman et qui écrirait bien Batman ? Eh bien, Christopher Priest. Donc, côté, bon, le fait que le Deathstroke, c'est bien Priest parce que c'est l'un des meilleurs titres de DC depuis les Rebirths en plus. En tout cas, c'était le plus constant, ça y est, là-dessus. Et du coup, bon, c'est dommage que ça s'arrête, mais a priori, ça va se finir d'une bonne façon. Moi, je voyais bien le truc se terminer après l'arc, justement, où ça s'appelle La mort de Deathstroke, mais bon, enfin, voilà, on sait très bien que c'est un peu foireux comme titre. Du coup, Christopher Priest est libre, effectivement, pour écrire un nouveau titre, et vu que Tom King se barre du titre Batman principal pour écrire sa maxi-série Batman et Catwoman, j'avais émis l'hypothèse que Christopher Priest, qui est un des meilleurs auteurs en ce moment dans les comics mainstream, qu'il écrive le titre Batman à la place de Tom King. Et ça tombe bien, puisque il y a une rumeur chez Bleeding Cool.
Nos amis, les meilleurs.
Écoute, ils sont bien, la plupart du temps. Donc, ils ont entendu dire qu'il y aurait un Batman noir pour remplacer Bruce Wayne pendant un moment, en tout cas, durant mi-2020 et jusqu'en 2021, quoi. Et que, connaissant DC, hein,
faut le dire.
Lui qui ne sera pas du connasse, effectivement. Connaissant DC, pourquoi pas mettre un auteur noir pour écrire un Batman noir, parce que voilà. Parce qu'on est. C'est ça.
Ouais, mais presque, il avait refusé ça déjà une fois, je crois. Genre, je crois qu'à un moment donné, alors je dis peut-être une connerie, mais c'est peut-être pas sur ce titre-là, mais je sais qu'à un moment donné, on lui a proposé, au début de Rebirth, on lui a proposé d'écrire Cyborg. Oui. Et du coup, il avait dit non, mais attendez, les gars, c'est juste parce que je suis noir, en fait. Enfin, vous foutez de ma gueule.
Non, mais mec, Cyborg.
Et il avait dit non, bah, du coup, je le fais pas parce que, enfin, j'en ai marre que, parce que je suis noir, je dois écrire des personnages noirs, tu vois. C'est une logique de merde. Du coup, il était sur Deathstroke après, qui était l'opposé du noir, tu vois. Mais je sais pas s'il accepterait. S'il pense pouvoir changer les choses, peut-être, mais la logique derrière ça, tu vois, ça dépend comment il lui présente.
Qu'il avait dit ça et tout, mais il avait dit, putain, moi j'aimerais bien écrire Batman. Et on lui a déjà refusé a priori Batman par le passé parce qu'on lui proposait plutôt d'être personne noir à la place, quoi. Donc ça le fait chier. Mais là, si on lui propose Batman, quitte à ce que en milieu de chemin, t'es obligé d'écrire un Batman noir, je sais pas s'il va quand même, parce que c'est Batman quand même, tu vois, et qu'il a l'air d'avoir envie de l'écrire. Donc je sais pas s'il va quand même céder un peu à ce truc de médiatique, voilà, effectivement.
Ça dépend s'il peut reprendre derrière, tu vois, parce que si la rumeur s'avère vraie, on est à mi-2020, 2021, donc ça fait six mois. Ça fait quoi, 6, 12, 6 numéros, c'est en bimensuel.
6 numéros, ça revient en mensuel.
Ça revient en mensuel.
Ouais, un arc.
Ouais, voilà, ça fait 6 numéros. Enfin, même si j'ai envie d'écrire Batman, tu vois, si on me dit t'as 6 numéros et tu l'écris que quand il est noir, hein. N'hésite pas, hein. C'est la fin, voilà. Si lui file un Batman, janvier, ouais, non, mais si lui file Batman en mode t'as Batman, tu vas avoir cet arc là avec Batman noir, ok, et tu peux continuer après, très bien. Si par contre on lui dit viens, ça te dit pas juste écrire l'arc sur Batman noir et après on te recalera sur une autre série, là je peux comprendre qu'il leur dise allez vous faire foutre, en fait.
C'est pas la mentalité de Priest.
Et Priest, en sachant qu'il a pas toujours, enfin, il est pas tendre quand il parle de DC sur pas mal de trucs, tu vois, il est plutôt cassant sur l'organisation générale de DC. Je sais pas, moi je le vois bien, selon comment ça lui est présenté, en sachant qu'on sait que Didio c'est pas le mec le plus fin du monde, c'est possible qu'il dise non.
Quoi ? Les piles de billets, c'est pas fin. Attends.
Il y en mettra plein, tu vois.
C'était quoi cette anecdote-là, justement, avec les piles de billets? Ah, c'est oui, c'était Donny Cates sur Batman.
Ouais.
Ouais.
Oui. Oui, bah, d'accord, oui, je m'en souviens.
La meilleure anecdote de l'été. La meilleure anecdote de l'été.
Mais de l'année, il faut le dire.
Ah non, mais entre Didio et Trump, il n'y a qu'un pas, quoi.
Ah, ça va encore glisser.
Non, c'est le patron de Disney, le pote de Trump.
Oui, je sais. Bon, on va repartir sur quelque chose d'un peu plus sympathique. Le relaunch de Suicide Squad, dit comme ça, c'est vrai, ça peut ne pas avoir la sympathique, surtout quand on voit l'affiche du film. Suicide Squad. Non, on n'est pas dans la partie ciné. Suicide Squad qui va être relaunché par Tom Taylor et Bruno Redondo. Tom Taylor sur Suicide Squad, est-ce que c'est pas juste un rêve qui se réalise?
Pourquoi? Parce que peut tuer tout le monde.
Ah, et bah tuer des gens, ça l'éclate. Et perso, quand il tue des gens, moi ça m'éclate aussi. Enfin, je sais que DC ça fait pas l'unanimité, mais c'est pas l'événement le plus fin au monde, mais je trouve ça sympa.
Je veux dire, en plus, il présente tous ses persos au fur et à mesure sur Twitter, et puis c'est des mecs qu'on connaît pas. Donc, il y ait moyen qu'on en voit vraiment crever, quoi. Comme il faut, quoi.
Tu vois, ça, je trouve que c'est un peu de la triche. Parce que créer des persos juste pour pouvoir les tuer, ça veut dire qu'il va jamais tuer les persos vraiment de DC. Et je trouve ça un peu facile.
Justement, c'est les seuls avec lesquels tu peux avoir un doute sur le fait qu'ils vont survivre ou non, quoi. Parce que si tu mets Captain Boomerang, tu sais très bien qu'il va pas mourir ou qu'il va revenir trois numéros plus tard. Et je crois d'ailleurs que c'est ce qui est arrivé avec Rebirth.
Oui, sans doute, mais le fait qu'on puisse plus tuer de vilains de vrais vilains historiques chez DC, c'est assez naze, je trouve, quoi. On soit obligé d'inventer de nouveau.
En même temps, on sait déjà qu'il y a Harley Quinn et Deadshot. Tu sais déjà qu'ils vont pas mourir.
Ah non, mais ça, c'est certain.
Et voilà, pourtant, on aimerait bien.
Bah oui.
Oui.
C'est pas l'envie qui manque.
Mais bon, vu les plans qu'il y a pour Harley Quinn, c'est mort.
Non, mais... Enfin, même
et on tue pas Will Smith. Quoi.
Même malgré ça, j'ai envie de dire, rien que Tom Taylor, ce sera déjà bien meilleur que Rob Williams. Rien qu'en termes d'écriture,
c'est
certain.
Tu mets la barre très mort ou non. Quoi.
Oui, non, mais voilà. Oui. Et encore, Rob Williams, on voyait du potentiel à l'origine, parce que d'après mes souvenirs, c'était bien lui qui avait fait la série Martian Manhunter lors de DCU avec Eddie Barrows.
Ouais.
Et un Martian Manhunter qui était vraiment pas mal.
C'était le truc qu'il a fait, qu'on s'est tous dit « Oh, en fait, il est vachement bon », et qu'en fait, pas tellement, quoi.
Voilà, et c'était bien de la merde, ce suicide.
Depuis, il a disparu. On n'a plus jamais revu.
C'est comme le fameux Jeff King de Convergence. On en a plus entendu parler.
J'avais oublié ce mec.
Voilà. C'est vrai.
Merde. Les fins de carrière, hein, ça, c'est compliqué.
Ah bah, c'était son début aussi. Donc voilà, donc je pense. Enfin, je sais pas si quelqu'un a vraiment envie d'étoffer parce que tu es des personnages.
Ce qui est intéressant cool, aussi, je trouve, dans l'histoire, c'est qu'il n'y a plus Amanda Waller à la tête de la Suicide Squad. Ce sera un nouveau régime en place. Et du coup, il n'y a plus l'affect qu'avait Amanda Waller pour les personnages. Et on sentira vraiment chaque personnage comme sacrifiable tout au long de la série, je pense.
À la limite, on met genre Catman, Ragdoll, on a Deadshot, Harley... Non, mais attendez.
Attends, où tu veux en venir.
Ça sent les sacrifices, là.
C'est pas qu'on veut faire revenir une idée sur le tapis, hein, mais bon, je vous dis que...
Mais Blue, t'es pas content, ils sont là, les Secret Six.
Ouais,
c'est pas les infectés. Du Batman Kiri.
Ouais, bon, ça arrive, tu vois, ça...
Kiri.
En vrai, j'aimerais bien un jour avoir Rick Remender sur Suicide Squad, ça pourrait être cool.
Les Secret Six du Dark Multiverse.
Mais
on verra jamais
un Remender sur Suicide Squad, ça serait un peu mon rêve sur ce titre. Après, bon, This Is, c'est bon, moi je trouve que c'est un peu trop le bord, enfin c'est vraiment le titre con par excellence.
Ouais.
Et en fait, ça dépend ce que t'attends de la Suicide Squad, tu vois. Si t'attends un gros défouloir, bah dans le style This Is, ok, tu vois, mais enfin ça dépend ce que t'attends de cette équipe. C'est sûr que si tu l'as commencé, enfin si t'as l'habitude, moi Ostrander et tout ça, tout le bordel, du coup j'aime bien c'est bien que ça soit le bordel, mais si ça peut être un peu politique, il peut avoir une histoire un peu plus recherchée, c'est pas mal, tu vois.
C'est ce qu'il a vendu Taylor, hein. Il a pas vendu un truc à la This Is. parce que dans ce qu'il dit, si je ne dis pas de bêtises, il parle en fait que la Suicide Squad, ils vont aller affronter un groupe de terroristes, je ne sais plus s'il mentionne un pays, et qu'en fait, ce groupe de terroristes va être repris, les survivants en tout cas, vont être repris par le gouvernement américain pour rejoindre la Suicide Squad.
Ouais, mais alors c'est... Ouais, je sais pas, les auteurs américains qui parlent de terrorisme, c'est toujours à double tranchant, hein, sans vouloir... C'est toujours un peu particulier. Genre,
lui, il est australien, peut-être qu'il est différent.
Ouais, ça devrait aller. Mais il y a une tendance quand même... Oui, voilà, ça aurait été Miller ou... Enfin, non, mais il y a certains auteurs, tu sais, qui ont quand même une tendance au patriotisme. Tu prends Tomasi, par exemple, tu sais qu'il y a une tendance au patriotisme. Et il y a des auteurs qui aiment même parler de la guerre en général sans être forcément dans le patriotisme, tu vois. Ennis, c'est ce qu'il fait, par exemple. Ennis, il englobe le soldat, tu vois. Ce qui aurait pu être intéressant, tu vois. Un Ennis sur la Suicide Squad, ça aurait pu être cool, tu vois.
Non, mais Ennis qui touche à n'importe quoi, qui touche à la guerre, c'est forcément bien, tu vois.
Oui, voilà, mais genre qui les humanise, tu vois. Parce que généralement, c'est l'équipe un peu faux-folle. Maintenant, enfin, ce que c'est devenu, c'est l'équipe un peu faux-folle qu'on voit faire des missions, et tu sais qu'à la fin, t'auras le personnage qui a été introduit au début de l'arc, mais qui fait pas partie de la Suicide Squad de base, plus ou moins, qui va crever, et puis voilà, c'est tout. Enfin, comme on dit, on a vu, putain, comment ça s'appelait ça? Les archives de la Suicide Squad? Non, attends, non, ça c'était le titre. Ouais. Non, ça c'était le tome. Mais on a eu un truc sous Rebirth, c'était Suicide Squad Black Secret Files ou un truc comme ça, et c'était avec une
seule.
Et c'était 6 numéros, ils se battaient pendant 6 numéros dans un cimetière. Ça n'allait, mais nulle part. Et puis la colo était dégueulasse, enfin, c'était l'enfer.
Ouais, c'était la chronique Les bons souvenirs de Blue.
C'est vrai.
Honnêtement, des comics Suicide Squad bien, il n'y en a pas tellement, quoi, à part le premier run de Strander, quoi.
Parce que j'ai demandé
le renouveau de la Suicide Squad par Ostrander, mais sinon j'ai jamais été hypé par j'ai jamais apprécié un comic Suicide Squad à part le sien, quoi.
Bah c'est devenu un gros blockbuster, tu vois, et je me dis pourquoi vous foutez pas Snyder, tu vois, quitte à écrire un blockbuster, vous mettez Snyder sur la Suicide Squad,
c'est clair. En plus c'est un titre important maintenant à cause des films, tout ça,
important. Et je suis content qu'il
fasse confiance, hein.
Après bon, il y a 2-3 idées qui chacun essaye d'apporter 2-3 idées. Je sais qu'au début du run sur Rebirth, je crois qu'il y a un mini arc avec Harley Quinn qui redevient, enfin Harley Quinzel plus ou moins, et qui est en mode bon, on va la jouer sérieux 5 minutes parce que ça suffit, on est en train de se faire démonter, et ça dure 2 numéros, mais bon, ça sortait de l'ordinaire, je trouvais ça pas trop mal quand je l'avais lu la première fois. Et je me dis, il y a toujours moyen de faire quelque chose, mais Suicide Squad, déjà, il faut voir qui y a à l'intérieur. Est-ce qu'on aura Wally? Est-ce qu'on l'aura?
Non, voilà. Wally, il a un titre où il va dans le Dark Multiverse pour chasser,
pas quoi. Ça commence demain, les gars.
Mais bon, on verra bien. On verra bien, pourquoi pas, tu vois. Genre, de toute façon, il y a des titres, on sait que... c'était de la merde, donc autant changer, et au pire ça sera de la merde, mais au moins le niveau restera constant, quoi.
Ouais, ça peut être que mieux que tout ce qui s'est fait avec la Suicide Squad depuis une dizaine d'années, hein.
Non, mais voilà, tu changes le...
Et Taylor, c'est pas mauvais, quoi.
Ouais, non, mais ça devrait aller. Non. Ça devrait.
Écoute, moi je l'aime bien, il fait pas que des trucs oufissimes, mais la plupart du temps c'est quand même au moins correct, quoi.
Allez, ça, il fait jamais rien de très mauvais, quoi.
Voilà. Et donc, pour revenir à ce qu'est Clegane qui disait que justement, Suicide Squad, c'était pas forcément un titre important, je pense que justement, c'est pas forcément un titre entre guillemets important, c'est-à-dire nécessaire, mais c'est une licence à exploiter pour DC.
Oui, voilà. Il y a des films et tout, c'est important en termes de pognon, quoi.
Voilà.
Ça. Dans l'univers DC en tant que tel, la Suicide Squad, c'est que dalle, tu vois. On s'en fout. Mais, en tout cas, maintenant, tu vois, et c'est rare que c'est fait une apparition de premier plan.
C'est devenu un filon.
Ouais, tu vois, c'est... Ok, maintenant, en tant qu'exploitation commerciale, si, tu vois, la Suicide Squad, c'est important.
Après, ils l'ont quand même laissé sans titre pendant plus d'un an, quasiment 2 ans, je crois, c'est ça qui est bizarre.
Ouais, enfin, après, il faut aussi guérir la plaie qui a été le numéro 50 aussi, hein, parce que c'était vraiment dégueulasse. On va continuer avec la Suicide Squad, avec l'annonce du casting par James Gunn. Il y a beaucoup de noms, de ce qu'on
John
retient...
Cena.
Pourquoi je m'y attendais,
le best, tout simplement.
Donc, de tout ce qui a été donné comme nom, est-ce que ça provoque des attentes différentes par rapport, j'ai envie de dire, à Birds of Prey ou alors au premier volet de la Squad?
Mais là, on sait déjà que la moitié ou les trois quarts vont crever, hein. C'est certain.
C'est clair.
Oui.
Et des... c'est marrant parce qu'en voyant le casting, tu sais qu'il va mourir à peu près, tu vois, genre, c'est qui lui? Ah, je sais pas, ouais. Il est dans quoi? Bah, alors, bon,
bah, ouais, il va je mourir. Ceux auxquels on s'attend qu'ils vont mourir, ils vont pas mourir.
Ouais, je le sens venir.
Bah, tu vois, là, il y a le comédien, le comique là, de SNL qui sortait avec Ariana Grande. Lui, il va tellement crever,
ah, oui.
Mais en plus, je suis pressé de le voir mourir. Quoi.
Non, mais ce qui est génial en plus, c'est Gunn, il part de chez Marvel, il arrive chez DC, il ramène toute sa bif avec lui. T'as son frère, t'as tous ses potes, t'as sa femme.
Ouais.
C'est génial.
Bah ouais. On va se faire chier.
Moi, je suis content pour Nathan Fillion. Parce que c'est un bon acteur et ça fait longtemps qu'on l'a pas vu.
Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Je vois tout le temps, ce mec.
Non, mais je suis content parce que ça veut dire, s'il est là dans la Suicide Squad, ça veut dire qu'il va pas faire le booster gold de merde avec Berlanti.
Ouais.
Alors je me dis, je suis content que tu sois là, tu me fais plaisir.
Mais on... Gunn, il s'est revendiqué, il a dit qu'il est vraiment fan du run de Slender et qu'il veut que son film, il ressemble quoi. Et rien qu'on le voit en fait sur l'image du casting, si vous avez bien remarqué, c'est la même police que celle du titre de Slender.
Hmm.
Le Suicide Squad, bon, c'est la même façon, en fait.
Après, médiatiquement, il n'avait aucune raison de dire « Oh, Strander, c'est un connard, je préfère le run de Paul Levitz. »
Non,
mais j'ai envie de dire...
Pas...
Oh là là là.
Est-ce qu'il aime des New 52 voilà, tu vois, ça, il va dire « Non, j'ai pas aimé, parce que personne n'a aimé cette merde. »
Non, mais après, Gunn, il est tellement taré. Il est tellement taré, ce gars-là. Enfin, ça m'étonne pas du tout, en fait, qu'on puisse l'associer au run d'Ostrander.
Ah oui, c'est clair. Ça a l'air d'aller dans cette direction. Et effectivement, s'il laisse James Gunn faire du James Gunn à fond, ça peut être très, très bien. Enfin, ça peut très bien lui coller.
Et d'ailleurs, j'ai vu certains insiders, bon, on les croit ou non, prenez ça avec des pincettes, mais qui disent que le film pourrait être R-rated. Et ça, bon, ça m'étonnerait.
Bah, il faudrait quand même. Hein.
En fait, ça dépend. Si tu prends en compte le succès du premier, tu te dis que les mecs, ils vont pas essayer de faire R-rated vu que le premier a marché sans l'être. Donc, ça serait se couper une part du public. Bah, en même temps, ils ont fait un Birds of Prey R-rated alors que Suicide Squad ne l'était pas. Donc,
Ouais, non, ils essayent quand même de mettre ça sous le tapis. Malgré l'argent que ça a fait, ils savent très bien qu'ils ont une réputation de merde à cause de ça.
Il y a une vraie volonté de cacher le Suicide Squad pour moi. Bah, disons que déjà, rien que le fait que ça ne s'appelle pas Suicide Squad 2, mais The Suicide Squad, pour moi déjà, c'est révélateur. Ouais. C'est en mode, il n'y a pas eu un truc avant. Après, c'est vrai que James Gunn, c'est son domaine de prédilection, en fait, parce que le thème de prédilection de James Gunn, c'est les losers. C'est-à-dire que ça a toujours été les losers. Enfin, tu regardes tous ces films, c'est ça. Les Gardiens de la Galaxie, c'est des losers. Super, c'est des losers. Scooby-Doo, c'est des losers. Quand tu vois, enfin, le Scooby-Doo de James Gunn, c'est des putains de losers. C'est tous des cassos. Donc, qui finissent par devenir brillants. Ah, mais moi, j'adore ce film aussi. Mais c'est des cassos, tu vois. Mais c'est ça le thème de James Gunn. C'est des losers, mais qui ont des capacités et qui finissent quelque part par briller. À un moment donné, mais ça n'en reste pas moins des losers. Et du coup, je te dis, il est dans son élément, le gars. Donc ça peut être pas mal. Franchement, ça peut être pas mal. Mais plus le casting, il y a quand même pas mal de noms qui ont l'air sympas. Enfin, il y a des noms que je m'attendais pas du tout à voir là, genre Peter Capaldi, je le voyais pas du tout se retrouver en plein milieu d'un film The Suicide Squad. Après, il y a beaucoup de name dropping pour des acteurs qui, à mon avis, il y en a certains, ils dureront 3 minutes à l'écran, tu vois. Mais c'est quand même pas mal, tu vois. Il y a quand même 2-3 trucs. Il y a pas mal d'acteurs que j'aime bien, tu vois. J'aimerais bien pouvoir voir Joel Kinnaman briller un petit peu parce que je pense que c'est un bon acteur et qu'il s'est retrouvé, en tout cas, dans des super productions où il joue un rôle tertiaire.
C'est un bon acteur, quoi.
Ouais, parce que moi je l'ai vu dans des séries plus.
Donc quoi
Attends, j'ai vu dans. Attends une seconde. Mais je l'ai vu dans pas mal de trucs. Il y a pas longtemps, Anna, je trouvais qu'il était pas mauvais, mais c'était pas son truc. The Killing, par contre, je le trouvais vraiment bon dedans.
J'ai pas vu.
Qui est une sorte de. Tu vois ce que c'est, Broadchurch, avec David Tennant?
Oui.
Bah, c'est un peu dans le même style. Et je trouvais qu'il s'en sort. Enfin, je trouve qu'il s'en sort pas mal.
Parce que moi, je l'ai vu dans Altered Carbon. Et bon, bah déjà la série est assez bidon. Mais ouais, donc ça n'a pas dû l'aider, mais je trouve que je ne l'ai pas trouvé fantastique. Et c'est, ouais, c'est vrai qu'il faisait le taf quand même, pour ce qu'on lui donnait. Donc ouais, peut-être qu'on, si on lui donne du bon matériel, il fait quelque chose de bien.
Après, il y a toujours l'histoire, bon, on peut revenir sur ça, mais il y a toujours l'histoire de direction d'acteur. Tu vois, sur, quand tu vois que Stéphane Hamel est capable de bonnes performances, quand tu as un mec qui est bien. Quand il y a un mec qui réalise et qui le coordonne, bon, bah voilà.
Dans New Girl, il était drôle.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein d'acteurs comme ça. Bon, à chaque fois, quand t'as des réalisateurs qui leur demandent le strict minimum, en mode, beaucoup dans les acteurs de série notamment, on leur demande le strict minimum, en mode, vas-y, balance ta ligne, elle a l'air un peu méchant et c'est bon, casse-toi. C'est un peu triste, tu vois. Alors qu'il y en a certains qui ont vraiment du talent. Donc, pourquoi pas.
Bon, je pense qu'on a... On a bien fait le tour de la du casting à Suicide Squad. Je pensais pas qu'on allait avoir autant de précision sur le sujet.
On peut le dire, c'est une grosse attente quand même.
Bah oui, c'est une grosse attente. Et par rapport à tout ce qui est liberté, j'ai envie de dire, James Gunn a fait tellement de choses entre guillemets dans l'indé que la liberté et lui, enfin, j'ai l'impression que la Warner l'a un peu appelé à l'aide et a profité d'une situation justement où il pouvait accepter.
Ouais, non, ils ont fait les vicieux, la Warner.
Ils ont fait les vicieux, mais s'ils l'ont fait, c'est pour lui laisser les pleines libertés.
Ah oui, clairement.
Donc, je vois pas pourquoi, justement, ils essaieraient de l'entraver à faire ce qu'il a envie de faire. Donc, ouais, c'est plein d'espoir. On va entamer la partie review avec la review VF. Je voulais revenir sur la sortie de New Teen Titans Volume 1. Donc, c'est le début du run Marv Wolfman et George Perez. Pourquoi est-ce un classique ? Parce que de toute façon, je ne vois pas qui pourrait ne pas vous le recommander. Pourquoi c'est un classique ? Parce qu'on a tout le statut qui va engager la légende des titans, c'est-à-dire le ravageur, le fils de Slade Wilson, qui va nourrir cette relation de némésis entre les titans et Deathstroke. La création de l'équipe, la création des premières relations entre personnages, j'allais dire entre X-Men, tellement ça se ressemble en fait. Bah, oui, mais
oui, t'as raison.
T'as toute cette notion d'équipe qui est vraiment fondée. Tout cet esprit des titans, il trouve sa source ici. Alors que l'équipe a été créée bien avant. Mais ça n'empêche que New Teen Titans, c'est vraiment le point d'entrée, ce qui va créer l'univers des titans et l'histoire des titans. J'ai pas envie de faire de parallèle avec la série, parce qu'au final, la série prend quand même beaucoup de liberté par rapport à ça. Et,
on y revient.
Voilà, on y reviendra juste après. Donc non, c'est vraiment l'aspect, en plus ça, le rapport à la série est pas si con que ça, parce que les New Teen Titans, t'as vraiment cet aspect de série dans l'écriture, même pareil pour la mise en scène, c'est vraiment une série blockbuster, un peu comme une sitcom où tu as la vie de super-héros au quotidien dans une tour, une vie d'adolescent, d'un groupe d'adolescents au quotidien.
Ce qui était complètement absent de la série, il faut le dire.
Complètement absent de la série télé d'aujourd'hui, mais vraiment. Ça fait tout le charme de ces titres-là et qui le rend d'une certaine manière intemporel. D'une certaine manière, hein, parce qu'il y a pas mal d'éléments qui font un peu vieillot aujourd'hui. Mais si vous aimez les années 80, les New Teen Titans, c'est vraiment un monument de cette époque-là en comics. Sledgy, j'imagine que tu veux en toucher deux mots.
Bah, moi, pour faire simple, hein, je trouve que c'est l'un des comics les plus importants de DC. Ça arrivait au début en 1980 et clairement il y a eu, enfin pour moi il y a eu un avant et un après New Teen Titans, quoi, en termes d'écriture, le sérieux qu'il y a dans les New Teen Titans, alors que pourtant c'est la série sur des ados, quoi, mais qui le sont plus tellement, et ça change de ce qu'il y avait avant, quoi, qui était encore un peu bon enfant des fois, enfin pas partout, hein. Genre Batman commençait à sortir des trucs à peu près sérieux avec Denis O'Neill. Là, c'est vraiment pour moi un marquant que représente George Perez et Marv Wolfman, qui vont foutre dans Crisis on Infinite Earth après, quoi, et après tous les trucs qui vont suivre, qui sont dark, on va dire. Je trouve que c'est un peu les prémices du Dark Age.
Donc c'est à cause de quoi, des comics. Du Dark Multiverse.
Ah non.
Quelque part, mais ça, on ne peut pas le contrôler. Et voilà, c'est aussi le moment où on prend des personnages et on les fait vieillir, quoi. Ce qui est tellement rare dans les comics.
Tu emmerdes tellement.
que ouais, en plus ça le fait chier alors que ce gros con a dû grandir avec quoi. Mais voilà, je veux dire, c'est un truc tellement rare de voir des persos grandir, changer et tout. Enfin, je veux dire, on va dire que ça transformer en Nightwing quoi. Donc et on voit Wally se transformer en Flash. Ce genre de choses quoi, c'est un truc, c'est inespéré, ça n'existe plus tellement aujourd'hui, ce genre de récit. En plus ça dure longtemps quoi, et t'as vraiment que des bonnes histoires, t'as plein de la mythologie des Teen Titans, c'est là que ça vient. Et comme tu disais, Watchful, ce que les gens connaissent des Teen Titans, ça vient de là, ça vient pas de ce qu'il y avait avant quoi. Et avant c'était des récits un peu bidons comme on en faisait au Silver Age et au début du Bronze Age quoi, des trucs sans grande importance, petite aventure à la con et puis c'était fini. Et là on est loin du truc pour enfants avec une morale à la fin et tout. Les mecs ils sont vénères, enfin c'est des vrais adolescents fin d'adolescence quoi. Je veux dire, Robin, Batman, ça le fait chier quoi. Et ça change vraiment la vision qu'on a du personnage et voilà, c'est vraiment on rentre dans le monde adulte avec les Teen Titans et les comics rentrent dans le monde adulte avec. Et voilà, en plus voilà, il y a des strokes et tout, c'est des trucs qui ont des couilles, tu vois. Et on parle beaucoup de la relation parent-enfant qui a toujours été hyper importante pour moi. Moi j'aime beaucoup les teen movies, tout ça, et ça c'est ce qui fait, c'est le comics qui le fait le mieux à mon avis. Et c'est top 3 des comics de toute ma vie. Voilà.
J'ai envie de conclure en disant qu'il y a un excellent dossier sur
le vrai.
Je n'en ai pas parlé.
On lui doit notamment ça au Strun. Hein, parce que si sans Strun, on n'aurait pas eu ce dossier sur les sidekicks. Putain, qu'est-ce qu'il est beau quand même. Je le relisais il y a 30 minutes. J'étais pas très bien et je l'ai relu. Toute ma tristesse s'est envolée. Je commençais à pleurer. Des larmes et tout, je l'ai relu et après j'avais le sourire.
Je te remercie.
Et voilà, tu ressens les mêmes blagues que La Réunion, quoi. Mais c'est arrivé.
Ouais, à chaque fois.
Le mec, il recycle les blagues.
Voilà, il l'a fait en public. Là. Voilà. Et oui, effectivement, il y a un dossier sur les sidekicks que je vous invite à lire hein, si ça vous intéresse, tout ce qu'on vient de dire, si New Teen Titans vous intéresse. Il y a ma critique qui arrive bientôt, en retard, certes, mais bientôt, du bouquin en question. C'est 400 pages, 35 euros. C'est les meilleurs 35 euros que vous utiliserez.
Cross-ERP.
Le bouquin sent bon. Sledgy l'a senti, il m'a dit, c'est merveilleux.
C'est vrai, quand tu touches la page, t'as les odeurs qui sortent. C'est ouf.
Le contact du doigt sur le papier, c'est ouf.
Et ça vous fait choper des meufs, je vous promets.
C'est vrai. et si ça marche pas, vous les assommez avec le bouquin, parce que c'est une arme contendante. Et vous pouvez les ramener chez vous après. C'est les conseils de Drag Sledgy.
Voilà. La question du consentement, une Blue ne se la pose pas.
Ah, les années 80, c'était différent.
Le Off My Mind sur le consentement. Un jour.
Très bon article également.
Ça viendra. on va continuer avec les reviews VO. Enfin, la review VO. Just Frog va nous parler de Légion Millennium numéro 1, qui voit, entre guillemets, l'introduction de la Légion dans l'univers d'ici. On peut pas une introduction, hein, ça fait plus de 5-6 ouais. ans.
C'était ouais. génial. Ouais, ouais. Personne n'a rien compris. C'était génial.
Explique-nous ce qui s'est passé.
Personne n'a compris.
Ouais, c'est un peu ça. En gros, il y a Bendis qui a voulu faire en deux numéros une intro donc à la Legion of Super Heroes. Et du coup, quelle est la meilleure idée ? Introduire un personnage, Rosenthorn, qu'il avait déjà utilisé dans son run sur Action Comics, il me semble.
Oui. Ouais, même Superman, il me semble qu'elle a peur.
Ah ouais ? Bon, bah, il l'utilise partout. Oui. Parce qu'il l'aime bien.
Voilà.
Et donc, elle arrive à voyager à travers le temps, on sait pas trop comment, grâce à un baril de produits chimiques.
C'est en fait, elle vieillit pas, et c'est juste on la voit de temps en temps, quoi.
Ouais. Oui, c'est ça, elle voyage à plusieurs époques.
Bah grave, c'est nul à chier, mais c'est horrible. Ça. Mais je sais pas, il venait de lire, Thanos wins, et puis il s'est fait ça, ou je sais pas.
Non, bah ça permet au lecteur un peu de retrouver toutes les époques futuristes de l'univers d'ici. Ouais. Il y a Batman Beyond, il y a Kamandi, il y a Tommy Tomorrow and the Planeteers.
Le point positif du numéro, c'est qu'on voit Terry McGinnis dessiné par Dustin Nguyen, c'est tout.
Oui, d'ailleurs, c'est les artistes, c'est magnifique. Il y a du Jim Lee qui est plutôt bon. Dustin Nguyen, Andrea Sorrentino et André Lima Arroyo. En vrai, ils font un travail magnifique.
Bah, c'est joli, dommage, mais c'est un gros prétexte.
Oui, c'est juste dommage qu'au final, il ne se passe rien et on n'entend jamais parler de la Légion. Et il a un numéro pour tout faire. Et je ne sais pas comment il va faire.
Et surtout qu'il coupe complètement l'herbe sous le pied de Jones avec cette série, quoi. C'est ouf. Toute son idée, c'était de ramener la Légion avec son Doomsday Clock. Et Bendis, ils ont sa Légion genre, 3 mois avant la fin du Doomsday Clock. Je trouve ça formidable.
Mais en plus, la Légion, on l'a vu dans Superman juste avant, quoi.
Oui, c'est vrai.
Non, mais il y a quand même, enfin, il y a quand même, c'est quand même prometteur, mais j'espère que ça fera pas une Young Justice, tu vois. Parce que le titre, j'ai quand même eu pas mal de mal. Enfin, je trouvais que c'était assez brouillon, tu sais pas où ça allait.
C'est hyper brouillon, Young Justice.
Non, mais Young Justice, tu vois, il y a un petit côté, c'est cool parce que tu revois tous les héros, etc. Mm-hmm. Et c'est fun, mais en soi, au bout de 3 numéros, tu savais toujours pas trop où on allait, ça part dans tous les sens. Et au final, c'est plus que classique. Enfin, franchement, tu prends. Enfin, bon, c'est une série qui repose sur ses persos, d'accord, mais il n'empêche que tu peux quand même faire un truc un minimum clair.
Non, mais c'est sa narration, elle est hyper confuse dans Young Justice.
Alors que tu vois, le gars, parce que là, j'ai rattrapé Léviathan, et je trouve qu'il y a une bonne narration. Et du coup, le gars arrive alors. Oui, mais il y a je suis pas d'accord, mais il se passe 2-3 trucs quand même. Mais il y a quand même pas mal de persos, pas mal de persos, et tu comprends ce qui se passe, tu comprends où tu veux en venir. Alors que là, je sais pas où on va.
Ouais. Moi, j'espère juste qu'il va réutiliser tous les petits détails qu'il a semés, toutes les époques, et même toutes les incohérences avec Rosenthorn, et qu'il va l'utiliser dans le deuxième numéro, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt de faire ça.
Pour retracer le futur de DC, enfin. C'est tout n'est qu'un prétexte, quoi.
C'est du gros teasing sur son titre Légion des super-héros.
Ouais. C'est ça.
On va attaquer le point review assez tendu. La saison 2 de Titans pour les deux premiers épisodes.
Oui.
Blue, t'es salé. On a le premier épisode d'abord.
Alors, premier épisode... Ah ouais, non, j'ai vu les deux, quand même. Ah. Le premier épisode, c'est pas mal, parce que, genre, il y a un méchant, et le méchant, il est effectivement très, très méchant. Il me rappelle mes meilleurs téléfilms sci-fi, ceux où il n'y a plus de budget et tu sais pas où tu vas. Et puis, il fait beaucoup de choses, et tu sais qu'il est terrible, parce que ça fait quand même 11 épisodes qu'on te l'a teasé, tu vois. Et il arrive, il sort d'un chalet, puis il marche, voilà.
Une heure.
Voilà.
Donc, il est méchant 5 minutes.
Donc là, on sent quand même qu'on a bossé
très méchant quand même.
Avec tous les acteurs qui sont là en mode « Non, c'est pas à nous, fin de tournage », parce qu'en fait, ils sont dans le fond. Mais genre, il n'y a que Dick et... Et Raven qui font quelque chose dans l'épisode, parce que bon, Beast Boy sert de punching ball.
serpent, et personne ne le relève. Parce que
et sinon, les autres, sinon, en fait, j'ai l'impression que c'est un. Et après, ils ont essayé de partir dans une sorte de mauvais remake de Shining, avec Dick qui poursuit des mecs dans la baraque et qui pète des portes en mode Here is Johnny.
Ils ont perdu l'occasion de faire une référence à Shining quand même. C'est dommage.
Mais tu vois, il y a pas le truc. Et en plus, l'épisode, il est assez mal branlé en mode, t'as vraiment, on va dire, un tiers de l'épisode où chacun a droit à sa mini-scénette. Et il vrille, tu vois. Chacun vrille et tu fais, c'est nul, quoi. C'est nul. Bon, t'apprends que Jason Todd cache des vraies balles dans les flingues dans la Batcave. Ça peut toujours servir, ça. Ça peut toujours servir, mais pour mettre des gros headshots à Dick au cas où ça part en couille. Tout le monde se fait bien confiance. Hein. Et après, bon, après t'as Dick qui réalise. Alors là, c'est là qu'il y a un problème, c'est que Dick réalise qu'il n'a pas été très honnête avec Batman, et c'est là que tu comprends pas, parce que pendant une saison, on t'a plus ou moins établi que bon, Dick, il était comme ça, parce que Batman, il était quand même assez chaud, tu vois. Il était devenu plus ou moins quand même un connard.
En fait, on t'expliquait que c'était le Batman de Miller.
Ouais, hein, ouais, on te dit que c'est clairement un connard en mode, je ne peux plus, je suis parti. Et d'ailleurs, toute cette violence, je suis en colère. Et en fait, il ne m'a pas trop appris à canaliser ma violence, à part en étant encore plus violent. et après, tu vois Batman. Et alors déjà, tu le vois. Au début, tu penses que c'est Alfred. Et finalement, c'est Batman. Bah ouais, mais faut comprendre. Hein. Franchement, les fauteuils en cuir comme ça, j'en ai vu à Ikea. Putain, faut trop lever. Hein. Mais ça, c'est un autre problème. Et il boit du thé. Donc, encore une fois, ça explique pourquoi il a tué le Joker.
Qu'il se fait lui-même.
Et oui, la théine est traître. Hein. Une théine un peu serrée le matin. Et après, tu fais une connerie. Tu balances le Joker du 12e. Mais il n'y a pas eu de préavis. C'est-à-dire qu'il a chopé, il a balancé. Bon, ça arrive, on fait tous des conneries. Mais.
La terrine.
Est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher?
Mais bon, voilà. C'était mon explication. Après, il y a la Tour des Titans. Alors, moi, j'étais vachement déçu. Parce que, ok, c'est un univers réaliste. Donc, tu t'attendais pas avec une tour en forme de T, etc.
C'est la start-up Titan.
Mais oui, c'est ça, tu vois. Bon, alors, moi, je veux bien que Dick soit un petit peu en mode Bruce, il a fait du business. Moi, je suis un peu dans la start-up nation. Il faut que je monte ma PME qui va grandir et se faire acheter à la Silicon Valley, mais à un moment donné il faut arrêter les conneries 5 minutes et faire un truc qui a un peu de gueule, parce que pour moi c'est un épisode de maison à vendre en fait, genre dit qu'il arrive, t'as les gamins qui courent partout en mode oh là là c'est joli, regarde cette pièce maman, on l'achète. Et voilà du coup c'est un petit peu triste comme épisode 1, c'est mon avis. Après je passerai l'épisode 2, mais voilà ce que je retiens de l'épisode 1.
Est-ce que vous n'avez pas trouvé ça trop bizarre, les apparitions des héros, vous savez, devant les comment ça s'appelle, les portes,
oui,
les costumes,
oui,
là, ouais. Les espèces de scènes, ouais, c'est trop bizarre.
Moi ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'il y avait que les 4 qu'on connaissait et les autres rien à foutre.
Mais moi je pensais que c'était des hologrammes en fait, hein. Au début je pensais vraiment
c'est Beast Boy qui voit les anciens.
Ah oui, c'est Dick.
Titans,
c'est Dick qui voit. C'est Beast Boy qui voit.
Non, c'est même pas Dick.
C'est Beast Boy. Non, c'est Beast Boy. Beast Boy qui est dans la cave. Et il y a des sortes de plateaux lumineux, tu sais, les mêmes sur lesquels tu poses ces espèces de petits trucs en verre où ils ont dessiné à l'intérieur des trucs en verre et tu mets un truc en lumière en dessus, c'est génial. Ils vendent ça à 10 euros à Carouf.
Mais ça m'a tellement fait penser à Batman et Robin.
Ah non, moi ça m'a fait penser à Carouf, le genre des soldes juste avant Noël. Mais après, chacun son truc, tu vois. Et après, Titan, balancer les basses. Gros générique, c'est parti, grosse saison. Et après, bon, épisode 2, on en parlera juste après.
Attends,
après, il y a le petit caméo de Deathstroke aussi.
Oui.
Ouais, enfin.
On sait pas pourquoi il est pas content, quoi. Enfin.
Ah bah non, on sait rien.
Il n'y a pas de temps dans l'épisode, mec. Attends, il fallait qu'il fasse deux épisodes avec un seul.
C'était le season final. C'est pas la première.
C'est vrai que Deathstroke, il a le sang chaud, tu vois. Genre, t'as Jason qui passe devant une caméra en mode « We are back, bitches ». Deathstroke fait « Ok, c'est la guerre.
» Ça t'a pas de sang, c'est bon. Ouais, le mec, tout de suite, tu te dis « Bon, bah, pas les enfants, quoi. Hein, c'est particulier, quoi. » Mais voilà, je tenais quand même à mettre un point d'honneur à la résolution du conflit contre Trigone, hein, qui est du niveau de Dora l'exploratrice, c'est rentre chez ta mère et ça réussit et c'est fini, quoi.
Qui revient grâce au pouvoir de l'amitié, c'est pas mal aussi.
Bah ouais.
C'est pas la première fois, mais qui bute le méchant en une attaque, bon, c'est même pas une attaque, en fait.
Raven lui dit on va te faire foutre, rentre chez toi et ça marche, quoi.
Oh, mon amour paternel a disparu.
Après qu'il ait buté sa meuf en bon méchant, tu vois. Ouais. Il avait besoin de la tuer là, en fait. Hein. Forcément, c'est genre. Ouais.
Il avait pas faire du personnage. Genre.
T'es là en mode ouais, mais quand même.
Comment vous avez compris qu'il est méchant si tu pas son copain?
Attends. C'est vrai. Il est vraiment cruel, quoi. Il a quand même tué une bonne femme, quoi.
Franchement, pour moi, c'était vraiment. Parce que moi je pensais qu'il allait quand même avoir, tu vois, ils allaient au moins se battre les uns contre les autres. Ils l'ont tabassé sur le sol. Alors apparemment il meurt, en fait il est pas mort, enfin c'est un bordel pas possible. Mais il y a vraiment un effet Tesseract en mode je te touche, je t'ai touché, t'es méchant. Tu sais, genre, enfin, je veux dire, c'est Titon ou le loup glacé, en fait. Enfin, c'est, à un moment donné, il faut, enfin, je veux dire, non, mais.
Voilà, les vraies références, c'est bien.
Écoute, j'ai eu une enfance difficile.
Entre Dora et le loup glacé, vous avez compris que c'est pas hyper subtil, quoi.
On avait des rédacteurs qui n'hésitaient pas à se battre dans la rue, free fight, combat au poing, au corps à corps, partout, tout le temps. On a des références, tu vois. Pour être chez DCP, faut avoir un passé torturé, hein. C'est primordial.
Ouais, c'est vrai, quoi.
Faut brûler des hôpitaux psychiatriques. C'est le minimum. Bon, sinon, après, t'es pas un bon titan. Du coup, on passe à l'épisode 2. Ça y est, on va pouvoir passer.
Juste... Le gars, il attend beaucoup. Vas-y.
Ce que je trouve de plutôt positif dans l'épisode, c'est qu'on voit qu'à la fin, les mecs ont vraiment envie de. C'est même pas envie, ils ont besoin de changer complètement l'ambiance. Et genre, dès que Trigon il meurt, les mecs sont hyper détendus, ils font des blagues, plus de blagues que pendant toute la saison 1 en 10 minutes. Et tu sens vraiment que les scénaristes, il fallait qu'ils changent l'atmosphère de la série. Et c'est hyper visible. Bon, et t'as toujours ce filtre bleu dégueulasse, quoi. Que...
Ah, le fameux.
Oh là là.
C'est vrai que c'était pas obligatoire, ça, mais.
Ouais. Bon,
surtout sur les trailers, il était pas là. Hein.
Alors, on est d'accord pour dire que l'épisode 1 était vraiment pas fameux. C'était une conclusion bien trop rapide, manque de moyens. Ouais. Pire épisode de la série, en fait. On entame ensuite le second, qui justement commence à développer un peu plus le nouveau ton de la série. Et à introduire l'intrigue principale.
Et la perruque.
Toutes les intrigues, en fait. Hein. Genre, t'as Deathstroke, tu as, bon, avec sa fille, avec le personnage. Bon, ça va, c'est l'épisode 2, c'est sa fille. Bon, allez, on va commencer, hein. Faut arrêter les conneries. T'as l'intrigue avec Starfire. T'as l'intrigue avec Starfire. Et bon, l'intrigue avec Kokandov, finalement, elle est résolue, elle se résout d'elle-même.
Elle sert à rien.
T'as un petit côté en mode Bruce Wayne qui en a plus rien à foutre, en fait. Genre, Bruce Wayne, en fait, tu te demandes s'il porte encore la cape, en fait. Pour moi, non.
Bah si, parce qu'ils le disent dans l'épisode 1 qu'il était avec la Justice League.
Ouais, ils le disent, mais enfin, à un moment donné, c'est comme à un moment donné, il name drop Red Arrow, tu vois.
Non,
mais... dans l'épisode, mais ce que je veux dire, c'est que bon, il en a plus rien à foutre. La preuve, Jason est puni parce qu'en fait, il utilise une moto dans l'escalier du Manor Wayne. Donc ça énerve beaucoup Bruce et Alfred, visiblement, qui l'envoient, en fait. Ils lui font tiens, Dick, c'est toi qui as la paternité. On attend de voir le costume de Nightwing qui devrait arriver si tout peu, parce que là il le tease, mais déjà de façon beaucoup trop en mode si moi je suis Robin, toi t'es quoi?
Ce sera épisode 9 minimum.
Le problème, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils les enfilent leur costume, parce que bon, Beast Boy, il en a pas besoin. Mais Dick, au bout d'un moment, il va pas pouvoir continuer à courir partout dans la ville alors que ça explose et faire tout et n'importe quoi, tu vois. Déjà que le gars est un peu louche parce que il ramasse des meufs à moitié explosées dans les poubelles avec sa petite camionnette alors qu'ils sont évanouis. Et après, il les enferme dans une tour où il est lock-up.
Tu dis ça tout à l'heure, tu disais qu'il fallait assommer pour draguer une fille.
Oui, mais voilà, ouais. on sait d'où j'ai appris mes meilleures techniques, tu vois.
Est-ce que c'est pas fidèle aux comics, du coup?
Écoute, on me demande de en parler, j'explique littéralement ce qui s'est passé dans l'épisode. Bon, après, du coup, ils n'arrivent pas à trouver l'identité de la fille. Alors Jason, il dit, ouais, mais alors du coup, si elle ne nous donne pas son identité, on va pas être lourd, plutôt on va juste peut-être fouiller dans ses affaires. Mais vu qu'il veut pas, on va carrément chercher sur le bateau ordinateur son identité via une reconnaissance faciale, histoire d'être bien intrusif. Hein, comme ça, il n'y a pas de problème. Et Beast Boy, il fait « Ouais, pourquoi pas ?» De toute façon, Raven, je l'ai toujours pas pécho, donc parce que je devais la pécho, et puis finalement, son père, il y a quelques problèmes.
Patrice est mineur et lui, il est adulte,
Et du coup, on ramène la fille, etc. Alors, je comprenais pas qui c'était, la meuf, au début. Au début, quand je l'ai vu débarquer, je me suis dit, peut-être qu'ils ont fait une Terra, mais asiatique. Et finalement, non. Non, finalement, on va rester sur du classique.
Et tu connaissais pas Ravageur?
Si, mais enfin, ouais, mais au début, enfin, je suis désolé, mais ce que je vois, c'est une Asiate qui se défenestre, tu vois, donc, enfin, bah, elle tape deux, trois flics et après elle se défenestre, quoi, donc, faut arrêter. Pour moi, c'est pas de la caractérisation.
Est-ce que t'en connais beaucoup des Titans avec des cheveux blancs?
Ouais, enfin, écoute, Beast Boy est pas asiatique, hein. Déjà, 2-1. Donc, ils peuvent tout faire, hein. On est un point. Bruce Wayne, il est pas blond, il y a pas 80 ans. Donc, déjà, genre.
Ça va, il est pas dans l'exagération, là, le gars.
Bah, non, mais ça va, bon, c'est toujours le même. Le problème, c'est qu'on a trop associé cet acteur à Game of Thrones, c'est-à-dire que, bon, le type se fait cuck et bolosse pendant 7 saisons. À la fin, tu comprends qu'il a besoin d'un break dans Titan avec du thé, quoi. Mais c'est quand même problématique, bien sûr.
Ah non,
mais
au moins, il y a des pistes. Quand tu vois le Batman de la fin de saison 1, où c'est un énorme catcheur là qui le fait, et puis au final, tu te retrouves avec Jorah Mormont, quoi.
Après, il manque de caractérisation. Ah oui, t'as aussi l'intrigue avec Raven qui finalement a ses nouveaux pouvoirs, etc. Mais finalement, je trouve que ça manque pas mal de. Enfin, c'était sympa, mais ça manquait clairement de consistance. Il y avait très peu de personnages finalement qui avaient une vraie caractérisation à part ben, en fait Hawk and Dove et leurs problématiques personnelles, mais sinon ouais, mais les autres le truc c'est que tout est court-circuité en mode oui bah finalement de toute façon vous avez pas le choix donc
c'est ça.
Même dans la saison 1 je trouve que c'était les meilleurs persos.
Non mais là tu vois c'est le seul qui avait une vraie problématique, qui a un vrai questionnement en fait, parce que les autres ils ont traversé pas mal de merde, Hawk and Dove aussi. Et ils sont en mode, plus jamais. Bon, après, de là, le faire s'occuper de chevaux, peut-être qu'il y avait une limite. Mais visiblement, c'était une passion, puisque avant, ils élevaient des pigeons sur un toit. Donc, bon, enfin, pas... ça, c'était la saison 1. Chaque saison, il y aura un nouvel animal. mais voilà, c'est un peu con de résoudre cette histoire en mode, ouais, il y a Dr. Light, putain. D'ailleurs, ouais, là, c'est chaud. Hein. On m'a dit c'était Dr. Light, je fais non, pour moi c'est le méchant lambda CW. Ils le battent à la fin et bah non, en fait il dure plus qu'un épisode. Moi je pensais qu'ils avaient vraiment le péter la gueule.
Non, mais ça va être un méchant aux côtés de Deathstroke.
Ouais, non, mais au moins que tu le vois interagir avec Deathstroke parce que là, bah, en fait il s'échappe de prison et après il n'apparaît plus à l'écran. Il apparaît via des explosions.
Non, mais il y a quelqu'un qui le fait sortir de prison.
Oui, certes, mais ce que je veux dire c'est que. Un petit truc en plus, tu vois, parce que là, le
oui,
gars,
c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Mais c'est que du teasing, et c'est ça la difficulté de l'épisode, je trouve, c'est qu'il s'embarque dans beaucoup d'intrigues, et j'ai envie de dire, comme dans le premier épisode de la première saison.
Et qu'est-ce que c'est un season première
que oui, je sais, mais est-ce qu'il n'y a pas trop d'intrigues entre l'enlèvement de Starfire, les pouvoirs de Raven, etc., etc., etc. Ça fait mais énorme.
Au final, on sait tous que c'est une intrigue qui va se regrouper dans 4-5 épisodes.
Ouais, franchement, l'enlèvement de Starfire, ils le bouclent en deux épisodes. Franchement, ils font ça, mais non, tellement pas.
Ouais, le problème, c'est que c'était, enfin, le premier épisode de Titans, c'était un truc en mode, on suit leur parcours personnel. Alors, certes, il y a plein d'intrigues, mais de toute façon, tu sais que l'idée, c'est que avant, on va dire, avant la moitié, enfin, au bout de 4 épisodes, ils sont tous ensemble quasiment. Là, c'est différent parce que la situation de base, les personnages, on les connaît et on n'en fait pas grand-chose. Et on lance beaucoup d'intrigues qu'on ne résoudra que difficilement.
Et attendez, il y a Connor encore qui doit arriver.
Ouais, c'est ça.
Ah oui,
il y a Connor, Crypto.
Crypto, ils ont intérêt à bien le caractériser, Crypto. Là.
Ouais.
Non, mais moi, je te spoil, ça va être, il fait de la même opération machin que Connor. Hein. Il sera pas de Krypton.
Non, mais c'est possible qu'on ait, à mon avis, dans le season final, on est Red Arrow qui débarque, enfin Arsenal, tout le bordel qui débarque. Enfin, pour moi, ça me semble assez évident. Enfin, le truc, c'est que, encore une fois, c'est toujours un peu le problème de ces séries, c'est que je trouve que là, il y a quand même pas mal de name dropping, et t'es en mode, oui, mais qu'est-ce qu'ils font les autres ? Ce qui est un peu le problème, généralement, quand mon problème vis-à-vis des grands univers partagés, c'est que, bon, bah, généralement, t'es là en mode, même dans les comics, hein. Batman fait son truc, il fait bah ouais, là il a un problème, et Superman, il entend tout sur la planète, il arrive, il le démonte. Enfin, je veux dire, c'est l'épouvantail, arrêtons. Quoi.
Oui, mais enfin, après, il y a quand même une certaine mesure dans une série. Enfin, tu vas pas forcément.
Oui, non, mais bien sûr. Le problème, c'est que encore une fois, c'est ce que je t'explique, c'est que il y a une certaine là. Toutes les 10 minutes, ils te font comprendre que l'univers est beaucoup plus grand
ouais, je que ça. Ça pas si mal.
Mais c'est cool. Si le problème, c'est que c'est un peu bizarre niveau intrigue. Du coup, parce que t'as les problématiques, elles sont un peu en mode. Enfin, je veux dire, à la fin, la problématique de la dernière saison, enfin de la première saison, c'est on détruit le monde en fait. Le grand méchant débarque et va détruire le monde. Qu'est-ce qui est écoute, plus important
comme, c'est comme quand tu lis un comic. Il y a des comics justement, par exemple le. Quand t'as... Regarde, tu prends l'intrigue de Superman de Bendis au départ avec Rogolzar là, qui va faire exploser la planète. Bah, Superman, il est tout seul. Il y a peut-être Atom, mais c'est tout.
Certes, mais là, le problème, c'est qu'ils sont tout seuls, mais il peut continuer à dire « Oui, mais alors, d'un côté, c'est vrai que Roy m'a envoyé des infos et machin. » Mais Roy, pourquoi il est pas là, putain de merde? Je veux dire, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Donna, qu'est-ce que tu fais? Ok, t'es alcoolique, attends, mais bon, c'est un numéro de téléphone, tu l'as enregistré.
C'est fumeur, hein. C'est pas la fin du monde, attends.
Oui, non, mais je... oui, non, mais fumeur, ok, mais tu vois, t'es là en mode, c'est vrai que putain, genre, ça aussi, là. Une princesse d'une planète, enfin, deux meufs ultra fortes affrontent la femme lampadaire. Bon, ils ont bien compris que. Et elles l'attendent en plus, hein. Elles sont en mode, ouais, elle arrive, hein. Et tout l'épisode, c'est ça, hein. Il n'y a qu'à la fin où elle est en mode, ah ben, finalement, elle est là. On lui met le coup de la corde à linge, et puis après, voilà. Terminé.
Et d'ailleurs, moi j'ai vraiment un problème avec cette Starfire, parce que, outre son apparence, je m'en fous qu'elle soit noire ou pas, mais en fait, si on nous dit pas son nom, comment on pourrait savoir que c'est Starfire? Elle a aucune de ces caractéristiques qu'on peut retrouver dans les comics. Et elle a pas cette espèce de naïveté du fait qu'elle vienne d'une autre planète, parce qu'en fait, elle est sur Terre depuis. On le sait combien de temps
non, mais... ça fait? Et Clegane.
Elle est arrivée pour Raven. Hein.
Ouais, elle est arrivée pour Raven. Sur Terre avant. Elle y était, mais elle n'était pas là pour. Elle n'était pas depuis longtemps en fait.
Ouais, puis il y a l'amnésie et tout le bordel.
Voilà, mais imagine, le personnage féminin adulte de la série est complètement naïf et un peu con-con. On aurait tellement qualifié la série de sexiste que ça n'aurait pas marché. Déjà, ouais, là, déjà Starfire dans les comics, c'est déjà un problème en général. Dans sa caractérisation.
Le film Wonder Woman, ils ont fait une personnage hyper naïve qui. Voilà, hyper naïf.
Oui, naïve mais forte.
Oui.
Bon, après Wonder Woman.
Mais.
On va pas y revenir. Après, dans les comics, Starfire, elle est hyper vénère. Ouais. Bon, ça, c'est réussi, tu vois. Dans les podcasts de Wolfman, quoi.
Bah, après, il y a le ton de la série, tu vois. Enfin, Starfire, là, elle débarque pas en mode. C'est-à-dire qu'elle débarque, la première scène de Starfire, je crois qu'elle est elle est dans une sorte de voiture échouée sur une route de campagne avec un mec mort à côté. Elle rentre à l'hôtel, elle se fait attaquer par deux mafieux. Bon, il y a d'autres problèmes. D'ailleurs, dès qu'elle passe quelque part, il faut qu'elle se batte. Donc,
Bon, pour résumer, là, les deux épisodes de la saison 2. Bon, alors on va pas vraiment considérer le premier épisode qui est une conclusion foirée. Mais pour la saison 2, qu'est-ce que vous en attendez suite au premier épisode?
Qu'ils construisent vraiment l'idée qu'ils semblent importer de créer une vraie équipe. C'est vraiment l'idée qu'il y a avec ces Titans déjà qui se forment, d'avoir une vraie équipe soudée ou avec une intrigue qui suit une équipe et pas plusieurs personnages dispersés de part et d'autre de l'univers d'ici. Quoi. Comment dire, développer les personnages entre eux, leurs liens.
Ah.
Non, mais moi, ce que j'aimais beaucoup dans la première saison, c'était le développement des persos. Souvent, il y avait un épisode dédié, tous les deux épisodes, à soit un perso, soit une intrigue particulière. J'aimerais vraiment qu'ils reprennent ça dans la saison 2, justement, comme le disait Clegane, pour développer soit l'équipe, ou soit même les nouveaux personnages qui vont arriver dans la saison au fur et à mesure.
Ouais.
Le problème, c'est qu'ils sont beaucoup, hein. Ils sont quand même 7. En sachant qu'on enlève Starfire, ils sont 7. Ils vont rajouter. Par contre, c'est pas mal que tu aies un côté l'ancienne équipe qui se reforme. Enfin, plus ou moins quand même. Avec ces nouvelles équipes. Parce que je me suis dit. Le premier épisode de la saison 2, même s'il est quand même prometteur, il y a un petit côté. Dick Grayson dirige la colo des Titans quand même. Genre, oui. Il doit avoir. Je sais pas quel âge il a dans le truc, mais il a la trentaine, tu vois. Il approche de la trentaine. Et c'est avec lui,
il a
plus que 20 ans. Il a plus que 20 ans. Donc, Titans, il a. Ouais, il doit...
25, mais pas plus.
Ouais, il doit avoir... Pour moi, il a 25-28. Hein. Mais et, il y a un petit côté. Bon, bah, ils... Enfin, ils ont tous 15 ans, quoi. Ils ont tous 15-17 ans. Genre, t'as Raven, t'as Beast Boy, t'as Jason, oui. T'as Ravager qui arrive. Bon, au bout d'un moment, t'es là en mode. Ouais.
C'est vrai que ça c'est bien gentil tout ça. C'est vrai que c'est mieux s'ils avaient à peu près quand même le même âge tous quoi.
Ouais, bon ben bah, du coup je demandais une synthèse et au final on est reparti sur un débat. J'arriverais même pas à synthétiser la synthèse quoi. Blue, le roi de la confusion. Donc oui, justement, se recentrer sur les personnages, approfondir un peu plus les caractères. Mais ça, c'est un peu vos attentes pour la suite. Mais ce qu'il en est, est-ce que vous voyez un positif dans cette seconde saison ou un aspect un peu plus négatif que la première ?
Dans l'épisode 2, en tout cas, on voit du positif par rapport à celui d'avant. Donc, c'est déjà ça.
Non, ouais. Ouais, d'accord. Mais je veux dire, par rapport au début de saison de la première saison, il y a déjà quelque chose d'un peu plus construit, d'assez rassurant, je trouve.
Bah après, moi, ce que j'aimais bien aussi dans la première, c'est vraiment la découverte des personnages. C'était des personnages, bah, certes, qu'on connaissait, mais qui n'étaient pas du tout développés de la même manière que dans les comics. Donc, c'était plutôt intéressant. Après, dark, ici, quoi. S'ils arrivent... Comment ?
Ils étaient dark, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais du coup, ce serait bien qu'ils continuent à garder cette vibe. Pas forcément s'attache aux comics, surtout avec un arc avec Deathstroke, qui est un peu l'arc principal des Teen Titans. Plutôt qu'ils arrivent à s'en détacher et faire un truc un peu original et de qualité. J'y crois pas trop, mais j'espère.
Ouais, bah déjà, s'ils arrivent à s'en sortir avec Deathstroke, ce serait pas mal.
Bah, il y a moyen de faire un truc un peu punchy, tu vois. C'est un peu ce qui monte au premier épisode. En fait, c'est un peu ce qui manque à cet épisode par rapport au premier épisode de la saison 1. C'est que bah, cet épisode, si tu considères l'épisode 2 comme le premier épisode, c'est vraiment très très calme, tu vois. Enfin, c'est pas punchy, quoi. Il se passe rien.
Ouais.
Enfin,
mais d'un côté, ils ont vu beaucoup trop grand avec Trigon, et ça s'est vraiment ressenti sur le premier épisode de la saison 2, là.
Non, mais certes, mais la seule scène qui est punchy, c'est Dove, en fait. C'est la seule scène de ce truc qui est punchy. Après, t'as vite fait Ravager qui fait des trucs. Mais sinon, c'est très, très calme, en fait. C'est les titans qui découvrent la tour. C'est Hawk qui s'occupe de chevaux. Voilà.
Ça se réserve pour le moment par rapport à la suite, mais je trouve que justement choisir Deathstroke et Dr. Light, c'est un petit parti pris SF avec le Dr. Light et un parti un peu plus misé sur la chorégraphie qui je trouve est un point fort de la série avec Deathstroke, et ça peut donner des choses vraiment intéressantes, surtout là quand on voit la petite course poursuite avec Ravager et les flics. Elle est pas forcément grandiose, mais pour une série de cet acabit là, je trouve qu'elle s'en sort vraiment bien.
Enfin, je vois mal comment ils pourraient dérailler. Enfin, après, bon, ils vont servir du classique. Le seul truc sur lequel ils pourraient vraiment dérailler, tu vois, c'est nous faire une Identity Crisis avec Dr. Light et Dove.
Non, le mieux, ce serait...
Je te dis, est-ce que c'est si... Parce que dans la première saison de Titans, on se rappelle qu'il est clairement dit, d'ailleurs, il y a un épisode qui est concentré sur ça, sur le viol que Hawk a subi étant enfant, et il essaye de se venger. Et j'ai une certaine peur qu'il nous fasse le coup en suivant, parce que ça, c'est un truc des comics, pour le coup, tu vois, c'est peut-être pas Dove qui en subit les conséquences, mais c'est un truc qui est vraiment arrivé dans les comics, pour le coup. Et j'ai une certaine appréhension sur le fait qu'il puisse faire ça, et ça m'inquiète un peu, tu vois.
Ça m'étonnerait, en vrai, je pense pas.
Je me dis que c'est pas improbable, mais ce serait vraiment exagéré. Et franchement, s'attaquer à Identity Crisis, vu la réception de la série aux yeux des fans de Titans, ce serait vraiment pas une bonne idée de leur part. Dr. Light, par contre, c'était vraiment une bonne idée parce que justement, l'opposition Dr. Light-Titans, il y a vraiment quelque chose derrière.
Donc, Clegane, il marche comment ses pouvoirs ?
Dr. Light, bah, il se noie de lumière, il peut aussi la créer, donc au final.
Pourquoi elle explose ?
Bah, il concentre de l'énergie, en fait. C'est plus de l'énergie plus que de la lumière, en fait.
Est-ce qu'on est d'accord, c'est pas vraiment pareil dans les comics ?
Justement, en fait, l'idée du viol, là, dans Identity Crisis...
Non, moi, je parle de ses pouvoirs, là.
Oui, non, mais justement, ses pouvoirs, il les utilise pendant le truc, et du coup, il la brûle. et elle meurt brûlée.
Oui, mais la lumière, ça peut brûler.
Bah oui, ça peut brûler. Ouais. Mets ton doigt sur une ampoule, reste 5 minutes comme ça et tu vas voir, ça te brûle.
mais si tu la mets dessus, ça va pas exploser.
Non, ça va pas exploser. Mais lui, il peut faire péter la lumière parce qu'il va, il est très chaud, quoi. Voilà, Dr. Light est très chaud.
Ah, ça.
Voilà. Aïe.
Bah, je crois que c'est une belle conclusion. Dr. Light est très chaud. Donc, pour résumer, Titans saison 2, a priori meilleure que la première. On met pas notre main à couper pour autant, avec quelques réserves, comme toujours. On vous remercie d'avoir écouté ce podcast. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain classique. Et on vous dit
au revoir.
Au revoir.